Vous écoutez, on lit pour vous.
Il y a 50 ans, la brève aventure du quotidien Le Jour. Un texte de Jean-François Nadeau et Étienne Paré, paru le 28 février 2024 dans Le Devoir. Partout au Québec, on était très bien accueillis, car on était perçu comme le journal de René Lévesque, qui était déjà immensément populaire. Il y avait un tel dynamisme autour du Jour que je suis convaincu que ça a mis la table pour l'élection du Parti québécois en 1976, affirme Paul Beaugrand-Champagne, qui mènera par la suite une brillante carrière dans les médias, travaillant dans presque toutes les salles de rédaction. Le 28 février 1974, il y a un demi-siècle exactement, paraît à Montréal le premier numéro de ce nouveau quotidien. C'est autour de René Lévesque, Jacques Parizeau et Yves Michaud que se structure ce journal. Ces ténors du Parti québécois estiment qu'à l'élection du 29 octobre 1973, leur parti a fait les frais d'une presse qui leur est globalement hostile. Mais une formation politique qui a ouvertement le nez dans un média, comme c'était si souvent le cas au 19e siècle ou dans la première moitié du 20e siècle, est-ce vraiment une solution? Une société des rédacteurs créée au sein du Jour permet d'éviter qu'il soit inféodé au parti. Jacques Parizeau est porté président du conseil d'administration de ce nouveau journal. C'est Yves Michaud qui est chargé d'en assurer la direction. Il est appuyé dans cette fonction par Évelyne Dumas, ancienne correspondante parlementaire pour Le Devoir, l'une des meilleures plumes de sa génération. Autour d'eux, on trouve des ouvriers de l'information aguerris, tels Gilles Courtemanche, Pierre Godin, Jacques Gay, Pierre Sormani, Alain Pointeau et bien d'autres. Le journal attire à lui des éléments de grande valeur. Auréolé de plusieurs prix, connu favorablement d'un vaste public, le photographe Antoine Désilet quitte la presse pour se joindre au Jour. Le caricaturiste Berthiaud abandonne pour sa part Le Devoir pour faire de même. C'était une salle de rédaction très jeune, se souvient Paul Beaugrand-Champagne. On avait presque tous moins de 40 ans. C'était une ambiance que l'on ne retrouvait pas ailleurs. François Demers se joint à l'aventure en 1975. En quittant Le Soleil, le jeune journaliste accepte en toute connaissance de cause de diminuer son revenu annuel. Le jeu en vaut la chandelle, juge-t-il. Ça a été une très belle aventure à plein d'égards. Dans l'effervescence politique de l'époque, c'était très intéressant. Mais je savais que c'était très risqué sur le plan de la carrière, que les finances du journal étaient très fragiles. Mais c'était un risque que j'étais prêt à prendre à cet âge-là, confie celui qui enseigne à l'Université Laval depuis 1980. Yves Michaud, le directeur, a du métier et du bagout. Il manie la plume comme s'il s'agissait d'un fleuret. Il adore les prises d'armes. Il a fait ses gammes au Clairon de Saint-Hyacinthe, longtemps le journal d'un sénateur hors norme, Télesphore Damien Bouchard, jugé coupable d'anticléricalisme par le clergé. Après des études en journalisme à Strasbourg, Michaud devient, dans les années 1960, rédacteur en chef et directeur du journal populaire La Patrie. Il sera ensuite élu député du Parti libéral de Jean Lesage, sans jamais perdre de vue un instant le rôle crucial des médias en démocratie. Des médias déjà concentrés. L'avènement du Jour est à situer dans un contexte de concentration de la presse alors sans précédent. Les acquisitions et les fusions des médias entre les mains de quelques-uns suscitent de vives inquiétudes. En décembre 1968, alors qu'il est député du comté de Gouin, Yves Michaud obtient la création d'un comité parlementaire pour étudier les conséquences de la concentration des médias. Il craint les effets de l'acquisition par de grands intérêts financiers d'entreprises de presse. La qualité du système démocratique est fonction directe de la qualité et de la quantité des informations reçues par les citoyens, déclare-t-il. Michaud pointe du doigt une suite de transactions dans les médias survenues depuis le début des années 1960 au profit de puissantes entreprises. En soi, le fait de placer le contrôle de la presse québécoise sous l'autorité d'une seule personne ou d'un seul groupe, s'est constitué à côté de l'État un pouvoir parallèle extrêmement puissant et dangereux, quelle que soit la qualité, la compétence, l'honnêteté et l'absence de partialité des personnes en cause, affirme Michaud. Il craint les fusions, les acquisitions, les concentrations. Assisterons-nous ici, au Québec, au spectacle désolant de la disparition graduelle des petites entreprises de presse à revenus modestes ou à leur intégration progressive dans de grands ensembles financiers où elles perdront rapidement leur âme et leur originalité? Les intérêts économiques qui relient les maîtres de la presse québécoise aux colosses de la finance canadienne sont désormais trop reliés, trop connus pour que nous n'exercions pas, au nom de la collectivité québécoise, une surveillance de tous les instants sur les principaux circuits et les premiers relais de l'information et de la culture populaire. Dans cet état d'esprit chauffé à blanc, des manifestants se ruent contre la presse le 16 octobre 1971. Des briques sont lancées contre l'édifice. Des incendies sont allumés. Une nouvelle manifestation a lieu le 29 octobre contre le même journal. Plus de 15 000 personnes manifestent devant le quotidien de la rue Saint-Jacques. Ils en dénoncent les biais. René Lévesque dénonce cette violence. Vous écoutez, il y a 50 ans, la brève aventure du quotidien Le Jour, un texte de Jean-François Nadeau et Étienne Paré, paru le 28 février 2024 dans Le Devoir. Des appuis et des ennuis. Lorsque Le Jour paraît en 1974, il est d'emblée endossé par plusieurs figures phares du monde culturel comme Yvon Deschamps, Gilles Vigneault et Félix Leclerc, immortalisés avec le journal sous leurs yeux par Antoine Desilets. Plusieurs lecteurs acquis jusque-là au Devoir lui tournent alors le dos, convaincus de l'à-propos des propositions du Nouveau Quotidien, plus en accord avec la pente sociale sur laquelle se situe l'élan indépendantiste. Mais les annonceurs gouvernementaux boudent le journal. Une partie de cette manne publicitaire lui échappe, si bien que Le Jour évolue vite dans une situation financière précaire. Sa survie repose sur des campagnes de financement auprès des membres du Parti québécois. Et ceux-ci apparaissent récalcitrants à donner, jugeant les journalistes trop indépendants pour des indépendantistes. Plusieurs membres trouvaient que l'on n'était pas assez favorable au PQ, résume Paul Beaugrand-Champagne. Ils auraient aimé que l'on soit carrément le journal du parti. Mais c'était important pour nous de ne pas devenir un organe de propagande. Il y avait une ligne éditoriale claire, mais c'était évident dès le départ que l'on pratiquerait le journalisme selon les plus hauts standards d'intégrité, souligne l'ancienne présidente du Conseil de presse du Québec. Pendant un peu plus de 2 ans, Le Jour va tenir bon. Mais il tire assez vite la langue. Les liquidités manquent. Et la façon d'envisager l'information que défendent les journalistes ne s'accorde pas à celle qu'envisage pour lui l'establishment du Parti québécois. Le journal ferme à la fin de l'été 1976, alors que le PQ appartient toujours à l'opposition. L'année suivante, le titre renaît sous forme d'hebdomadaire. Il ne dure que le temps de 50 numéros seulement. Le nouveau journal compte se tirer d'affaires en adoptant un modèle d'autogestion. Les journalistes sont regroupés au sein d'une société des rédacteurs. Ce principe, calqué sur celui du quotidien français Le Monde, accorde aux journalistes un pouvoir éditorial fort. Ils jouissent de pouvoir sur les contenus qui se retrouvent dans les pages de leur journal. Les décisions sont en principe prises de façon collégiale. Une utopie? C'est sous le chapiteau de leur société de rédacteurs que les journalistes du jour votent pour le congédiement de 4 de leurs collègues après une première année d'existence. L'ambiance de travail jusque-là bon enfant s'en trouve plombée. Il y avait beaucoup de très bons journalistes expérimentés au sein de la salle de rédaction, mais il y avait aussi beaucoup de juniors. Et certains avaient du mal à suivre. On a donc dû prendre cette décision, mais ça a été très pénible, se remémore le journaliste Pierre Sormani, devenu plus tard directeur des émissions d'affaires publiques à Radio-Canada. La société des rédacteurs finit par prendre le contrôle de la publication, à l'encontre d'une direction qui souhaite plutôt recentrer la pratique journalistique selon des intérêts politiques. Le Jour publie son tout dernier numéro le 24 août 1976. Michaud et Parizeau démissionnent. Avec le recul, Pierre Sormani qualifie aujourd'hui l'expérience du Jour d'utopique. Président de la Société des rédacteurs, puis chef de la rédaction de ce journal du matin, Paul Beaugrand-Champagne raconte que les journalistes étaient payés 14 000 $ par année, ce qui est tout de même l'équivalent de 80 000 $ en 2024. Les cadres, comme elle, gagnaient à peine 1 000 $ de plus. Des conditions de travail moins avantageuses que celles en vigueur dans les autres médias, mais tout de même loin du salaire minimum de l'époque, l'équivalent de 4 000 $ par année. La semaine de travail s'étirait sur 6 jours. Le samedi, puisque le journal ne paraissait pas le dimanche, tout le monde avait congé. Un certain paradoxe pour un quotidien dont la ligne éditoriale social-démocrate défendait des conditions de travail meilleures pour tous. C'était, il y a 50 ans, la brève aventure du quotidien Le Jour, un texte de Jean-François Nadeau et Étienne Paré, paru le 28 février 2024 dans Le Devoir.
Qui sont ces jeunes qui s'engagent dans la police? Un texte de Raphaël de Rome, paru le 12 janvier 2024 dans Québec Science. Depuis 2019, des centaines de futurs policiers et policières du Québec sont suivis à la trace. Il ne s'agit pas d'une filature, mais d'un interrogatoire annuel mené par une équipe scientifique. Le but? Comprendre qui sont ces jeunes qui choisissent le métier. Il fait encore noir quand nous arrivons à l'École nationale de police du Québec, ENPQ, à Nicolette. Il n'est que 6h30, mais il y a déjà beaucoup d'ambiance à la cafétéria. Des dizaines de jeunes en uniforme se feraient un chemin vers le buffet où les attendent café, fruits, sandwich déjeuner, smoothies. Tout le monde se salue. Parce qu'ils se connaissent. Et parce que c'est obligatoire. C'est une des règles de savoir-être enseignées ici. Tout comme l'interdiction des jeans et des cheveux longs détachés. Après leurs études collégiales, DEC ou AEC, en technique policière, aspirants et aspirantes ne peuvent être embauchés avant de réussir en Nicolette, comme on surnomme l'école. Pendant 15 semaines, le NPQ leur fait vivre la réalité policière. Jour, soir et nuit, ils et elles reçoivent des appels sur leur radio, patrouillent sur le campus ou dans la municipalité de 8500 habitants dans leur Dodge Charger marqué « Formation », portant à la ceinture une réplique de leur future arme de service. Et pratiquent leurs interventions lors de mises en situation faisant appel à des actrices et des acteurs professionnels. Comparativement au cégep, ici, ils ajoutent vraiment le facteur stress, dit Ahmed Dahamani, 23 ans, verre de jus d'orange à la main. C'est très réel. La dame que tu mets en état d'arrestation, elle pleure. Tu as des larmes qui te coulent sur le bras, ajoute son collègue William Balthazar, 27 ans. Tout le monde vit sur place. On se lève tôt et on se couche tard. On a des horaires chargés, dit leur comparse Émy Drouin, 23 ans. Le NPQ accueille entre 30 et 40 % de femmes. D'ici quelques mois, Ahmed, William et Émy recevront leur attestation et iront gonfler les rangs des corps policiers. Une relève bienvenue, puisque la police québécoise fait face à d'importants problèmes de recrutement et de rétention de personnel. Choisit-on les bonnes personnes dans les programmes d'études en technique policière? Peut-être pas, indiquait le rapport du Comité consultatif sur la réalité policière en 2021. Pour mieux connaître les aspirants et aspirantes, le professeur de criminologie à l'Université de Montréal, Rémi Boivin, et des collègues ont lancé en 2019 une vaste enquête longitudinale intitulée « Les trajectoires professionnelles des policiers du Québec ». L'étude suit près de 900 étudiants et étudiantes en technique policière depuis leur admission au cégep jusqu'à leur début dans la profession. Chaque année, nous les sondons sur leur parcours scolaire, leur motivation, leurs objectifs. On mesure également différentes facettes de leur personnalité, adhésion à la culture policière, maîtrise de soi, intégrité. Détail, Rémi Boivin. Ceux et celles qui abandonnent sont aussi interrogés. Une police qui se cherche. La police québécoise s'interroge sur la voie à adopter pour l'avenir. Le Comité consultatif sur la réalité policière, mandaté par le ministère de la Sécurité publique en 2019, a rencontré 54 groupes et reçu 80 mémoires. Son rapport final concluait notamment que les forces de l'ordre sont dépassées par la cybercriminalité, manque de femmes et de personnes issues de la diversité et doivent évoluer. Parmi ces 138 recommandations, revoir les critères d'admission en technique policière. Tous au garde à vous. Quelques minutes avant 7h30, près de 300 aspirants et aspirantes arrivent au gymnase pour leur rassemblement quotidien et forment leur rang en papotant. Mais il suffit que retentisse la voix forte de l'aspirant de garde « Cohorte !» pour que le groupe passe au silence complet. S'ensuit un enchaînement bien rodé, durant lequel instructeurs et instructrices exécutent divers saluts officiels, puis inspectent chacun des uniformes. Pour autant, on n'est pas dans « full metal jacket ». Personne ne crie au visage des recrues. Les échanges, cordiaux, se font à voix basse. Puis, au son des tambours, chaque cohorte sort au pas militaire. Gauche, droite, gauche! Ce rituel vise à préparer les jeunes à la culture paramilitaire de la police québécoise. Ils se prêtent à l'exercice de bonne grâce, mais le choix de carrière est d'abord motivé par le fait d'aider la communauté, par l'adrénaline liée au travail et par le désir de lutter contre la criminalité, indiquent les données. Le salaire, les avantages sociaux, le prestige ou le pouvoir lié à la fonction sont secondaires. Et la patrouille? Très peu pour eux. Déjà, lorsqu'ils commencent leurs études, la fonction de patrouilleur n'est pas la plus populaire. Et quand on leur demande où ils se voient après 10 ans de carrière, ils et elles sont plus nombreux à rêver de travailler aux enquêtes, dans le groupe tactique d'intervention, en supervision ou encore à l'escouade canine. Une situation qui ne surprend pas Rémi Boivin, mais qui le préoccupe. Il y a à peu près 15 000 policiers au Québec, dont plus de 10 000 sont patrouilleurs. Et si, dès la formation, ce n'est pas ce qu'ils veulent faire, on a un sacré problème. J'ai peur qu'on crée de futurs policiers qui vont être frustrés durant toute leur carrière. Cette frustration est bien réelle, a pu constater Annie Gendron, chercheuse au Centre de recherche et de développement stratégique de l'ENPQ. La psychologue de formation fait partie de l'équipe qui mène l'enquête longitudinale. Dans d'autres études qu'elle a menées sur le bien-être psychologique des policiers en service, elle constate un pic de désillusion professionnelle à la 6e année de carrière. Dans bien des organisations, en raison des conventions collectives, les possibilités d'avancement surviennent après 5 ans de service. S'ils postulent à un poste, mais ne sont pas choisis, leur bien-être et leur engagement diminuent. Vous écoutez? Qui sont ces jeunes qui s'engagent dans la police? Un texte de Raphaël Derome, paru le 12 janvier 2024 dans Québec Science. Comment expliquer ce désintérêt pour la patrouille? Deux camps s'opposent. Les organisations policières pensent que les cégeps sélectionnent les mauvais profils. L'admission étant très contingentée, les collèges se simplifient la tâche en sélectionnant les jeunes selon les résultats scolaires et les habiletés physiques. Or, les étudiants et étudiantes les plus performants sont souvent très ambitieux. Les études sont claires là-dessus. Il y a un lien direct entre la performance scolaire et des ambitions de carrière, souligne Annie Gendron. Les collèges croient plutôt que c'est la culture des organisations policières qui ne répond pas aux valeurs de la génération Z. Ces jeunes veulent participer aux décisions, veulent que leurs opinions soient considérées, alors que la police, c'est du commandement du haut vers le bas, poursuit l'experte. Qui a raison? Selon Annie Gendron, les deux phénomènes cohabitent. Il serait souhaitable de diversifier les critères de sélection. Mais il faudra aussi que les gestionnaires policiers soient plus à l'écoute de leurs troupes. À court terme, je ne pense pas qu'on va abandonner le modèle paramilitaire. Mais des gestionnaires plus ouverts et bienveillants envers les équipes amélioreraient le bien-être au travail et la rétention du personnel. Un problème particulièrement criant dans les corps policiers autochtones, souligne l'experte au passage. Déjà, la relation entre les communautés et la police est très teintée des traumatismes générationnels du passé. Comment retisser un lien de confiance si le personnel change constamment? Un autre défi tient au fait que 70 % des déplacements policiers ne sont pas liés à la criminalité. Dans la seule année 2019, les corps policiers québécois sont intervenus plus de 80 000 fois auprès de personnes ayant des troubles de santé mentale. La formation a été bonifiée en ce sens, mais les organisations policières aimeraient que les collèges tiennent compte, lors de l'admission, des habiletés interpersonnelles, de l'intelligence émotionnelle et de l'ouverture à la diversité. Bien sûr, c'est difficile d'évaluer ces caractéristiques-là, mais le bulletin, ce n'est probablement pas suffisant comme outil, fait valoir Vincent Mousseau, doctorant sous la direction de Rémi Boivin et membre de l'équipe de recherche. Qu'est-ce que la culture policière? La culture policière a été étudiée par les sociologues dès les années 1960. Il s'agit d'un ensemble de valeurs ou d'attitudes partagées à divers degrés par les policiers et policières. Ça peut inclure un certain machisme et une attitude conservatrice, explique Rémi Boivin. Il y a l'idée du « nous contre eux », que le monde extérieur est dangereux et qu'on doit donc se protéger entre policiers. Ça s'exprime par une certaine résistance face aux regards extérieurs, aux changements de pratique ou aux volontés de la haute direction. Elle inclut aussi tous les rituels d'initiation et la conviction que personne ne peut comprendre le travail policier sans l'avoir vécu. Dans le feu de l'action. Monsieur, je vous demanderai de rester assis, s'il vous plaît, entend-on à travers le haut-parleur. Debout dans un corridor, en compagnie d'un groupe d'aspirants et aspirantes, j'observe la scène à travers une vitre sans teint. Appelée pour crise et pleurs, dans le modeste appartement, une réplique utilisée pour les mises en situation sur le campus, Ahmed Dahamani et sa partenaire, Alexia Pelletier, sont en pleine intervention. « Monsieur, Vous êtes en état d'arrestation pour voie de fait. » Resté calme jusqu'ici, l'homme, en réalité un comédien, s'impatiente. Poussé contre le mur par les deux agents qui tentent de le maîtriser, il se débat. Tous trois tombent par terre. Voyant leur consoeur chuter, les aspirantes à mes côtés sont saisies d'émotion. « Aïe, aïe, il est rough! » Cloué au sol, l'homme va s'y faire des insultes à sa conjointe, une actrice aussi, qui sanglote. « Qu'est-ce que tu leur as dit? » Ahmed Dahamani fait de son mieux pour le menotter, mais les menottes ne collaborent pas plus que le suspect. Puis, le duo escorte l'homme jusqu'au véhicule de patrouille. Scénario terminé. De retour avec le groupe sous les applaudissements de leurs camarades, les deux jeunes agents sourient, visiblement soulagés. En rétroaction, l'instructrice recense leurs bons coups et les éléments à améliorer. Malgré le stress, ils ont agi avec professionnalisme. Les inconduites policières existent, mais ces comportements problématiques sont concentrés chez un petit nombre de policiers et policières, indique la littérature scientifique. On note une association avec certains profils, notamment la forte adhésion à la culture policière. Pourrait-on repérer ces individus dès le début du parcours? L'enquête le dira peut-être. Déjà, l'analyse des trois premières années de données montre l'évolution des caractéristiques personnelles des candidats et candidates. L'impulsivité diminue avec le temps, ce qui est rassurant. Mais du côté de la prise de risque, ça augmente chez certains et diminue chez d'autres, constate Rémi Boivin avec étonnement. Très franchement, je ne m'attendais pas à un tel changement entre le début et la fin de la formation. Ça laisse entendre que c'est un bon moment pour cibler et modifier certains comportements ou inculquer certaines valeurs. L'équipe de recherche dispose du financement nécessaire pour suivre les volontaires jusqu'en 2026 et espère prolonger l'enquête jusqu'à la fin des temps, lance Rémi Boivin, mi-blagueur, mi-sérieux. C'était « Qui sont ces jeunes qui s'engagent dans la police? » Un texte de Raphaël de Rome, paru le 12 janvier 2024 dans Québec Science.